Chant 9e. L'Assemblée. Les grands micocouliers pleurèrent. Affligés, s'enfermèrent dans leurs ruches les abeilles, oubliant le pacage plein de titimales et de sarriettes. Avez-vous point vu où est Mireille? Demandaient les nymphéas aux gentils alcyons bleus adonnés au vivier. Le vieux Ramon et son épouse, tous deux gonflés de larmes, ensemble, la mort au cœur, assis dans le mas, mûrissent leur douleur. Certes, il faut avoir l'âme en délire, ô malheureuse, ô écervelée, de la folle jeunesse, ô terrible et lourde chute. Notre Mireille, belle, ô équipée, ô pleure, avec le dernier des truands, s'est enlevée, enlevée avec un bohème. Qui nous dira dévergondé le lieu, la caverne reculée où le larron t'a conduite? Et ils branlaient ensemble leurs fronts orageux. Avec l'ânesse et les mânes de Sparterie vinrent les chansons selon l'usage. Et, debout sur le seuil, « Bonjour, je venais quérir, maître, les œufs et le grand boire. »« Retourne-toi, malédiction !» cria le vieillard. Car tel qu'un chêne liège, sans aile, il me semble maintenant qu'on m'a arraché l'écorce. D'une seule course, retourne-toi de ta venue et chanson. À travers champs, pars comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les fosses et les charrues. Ô moissonneur, dis de jeter les faucilles, ô berger, de laisser le bétail. Qu'ils viennent me trouver. Aussitôt, plus léger que les chèvres, par le valet fidèle. Il traverse dans les terrains pierreux les beaux sainfoins rouges. Il passe entre les yeuses des hauts talus. Il franchit d'un bond les chemins bas. Il sent déjà les parfums du foin fraîchement abattu. Dans les luzernes touffues, hautes et de bleu toutes fleuries, il entend craquer de loin la faux. À pas égaux, il voit avancer les forts faucheurs ployés sur l'andin. De côté, devant l'acier destructeur de verdure, se renverse la fane en lignes qui font plaisir à voir. Des enfants, des jeunes filles rieuses, dans l'andin verdoyant râtelé. Il en voit qui mettent à meule le foin déjà prêt. Il chantait, et les grillons qui désertaient devant les faux écoutaient. Sur un chartil de frêne que tirent deux bœufs blonds, là-bas, plus loin, il voit, large et haute, l'herbe fauchée que l'on charge, l'habile charretier sur le charroi là-haut à grande brassée du fourrage qui lui enfermait la ceinture et levait sans cesse la hauteur, couvrant ridelles et roues et timons. Et, avec le foin qui traînait, lorsqu'ensuite s'avançait le char, d'un bâtiment de mer vous eussiez dit la masse. Voici pourtant que le chargeur, comme un jouteur se lève droit, écrit soudain à ceux qui fauchent. « Faucheur, arrêtez-vous, il y a quelque trouble. » Les aides-charretiers qui, à pleine fourche, lui présentaient l'herbe fanée, essuyèrent les gouttes de leur front ruisselant, et, sur le ceinturon de leur taille, posant le dos de la faux, vers la plaine où darde le soleil, les faucheurs tenaient la vue en aiguisant. « Homme, écoutez ce qu'a dit le maître, » leur fait le messager rustique. « Et chanson, m'a-t-il dit, part soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les fosses et les charrues, au moissonneur dit de jeter les faucilles, au berger de laisser le bétail, qu'ils viennent me trouver. » Aussitôt, plus léger que les chèvres, part le valet fidèle. Il enjambe les billons, où croissent les garances d'altaines précieux souvenirs. Il voit de partout la maturité qui dore la terre au feu de sa torche. Dans les guérets étoilés d'aurioles, il voit, cheminant derrière leurs mules, les laboureurs vigoureux courbés sur la charrue. Il voit, de son sommeil hivernal, la terre en motte difforme se soulever et, dans l'énorme sillon, les hoches-queues suivre l'arrière frétillant. « Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur dit le messager rustique. « Échanson, m'a-t-il dit, par soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles, aux bergers de laisser le bétail, qu'ils viennent me trouver. » Aussitôt, plus léger que les chèvres, par le valet fidèle, ils sautent les fossés, tout fleuris d'herbes prairiales. Ils trouent dans les champs d'avoine blanc. Dans les grandes pièces de blé, rousses d'épis, ils se perdent au loin. 40 moissonneurs, 40, pareils à des flammes dévorantes, de son vêtement touffu, odorant, gracieux, dépouiller la terre. Ils allaient sur la moisson qu'ils moissonnaient comme des loups. Ils dévirginaient de leur or, de leurs fleurs, et la terre, et l'été. Derrière les hommes, et en longue file, comme les crocettes d'une vigne, tombait la javel avec ordre. Dans leurs bras, les ardentes lieuses vite ramassaient les poignets, et vite, pressant la gerbe, d'un coup de genou, la jetaient derrière elles. Comme les ailes d'un essaim étincelaient les faucilles. Elles étincelaient comme, à la mer, les flots rieurs où, au soleil, s'ébat le carrelé. Et, confondant leurs barbes rudes, en meules les hautes gerbes, en meules pyramidales, s'élevaient par centaines. Cela ressemblait, par les champs, au pavillon d'un camp de guerre. Comme celui de Beaucaire, autrefois, quand Simon et la croisade française et le légat qui les commande vinrent impétueux à toute horde égorger la Provence et le comte Raymond. Mais cependant, les glaneuses, çà et là, vont, se jouant, leurs glanes à la main. Cependant, au canet, ou à l'ombre chaude des gerbiers, maintes fillettes folâtres, sous un regard qui la fascine, se laissent aller à la langueur. Amour aussi et moissonneur. Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître, leur fait le messager rustique. Échanson, m'a-t-il dit, par soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles, aux bergers de laisser le bétail. Qu'ils viennent me trouver. Aussitôt, plus léger que les chèvres, par le valet fidèle. Dans les oliviers gris, il prend les raccourcis du chemin. Il va comme l'éclair. Des vignobles, il tord le pampre comme une rafale de bise. Et le voilà seul au lieu où chante la perdrix. Dans la vaste étendue des crocs arides, sous des chêneteaux rabougris, il découvre au lointain les troupeaux qui reposent. Les jeunes bergers, le chef des pasteurs, faisaient la méridienne sur le maroube. En paix couraient les bergeronnettes sur le dos des brebis en train de ruminer. Des vapeurs diaphanes, légères et blanches, de la mer lentement s'élevaient. Peut-être, dans les hauteurs immatérielles, quelque sainte du ciel, de son voile de nonne, s'était-elle allégée en frôlant le soleil. « Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur fait le messager rustique. Et chanson, m'a-t-il dit, soudain part comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues, aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles, aux bergers, de laisser le bétail. Alors s'arrêtèrent les faux et firent halte les charrues. Les 40 montagnards qui abattaient les blés alors quittèrent les faucilles et vinrent comme un essaim qui, parti de sa ruche, dès que les ailes lui ont poussé, au bruit des cymbales éclatantes, sur un pin va se rassembler. Au mas vinrent les lieuses de gerbes, vinrent les rateleuses, vint le charretier avec ses aides, vinrent les pâtres, les glaneurs et les ouvriers qui amelonnent, vinrent les entasseurs de gerbes, laissant tomber les gerbes au pied des meules. Mornes et muets, dans l'air gazonneuse, le chef de la ferme et son épouse attendaient le rassemblement. Et les hommes, émus d'être ainsi troublés dans leurs travaux, autour du maître se rendaient et lui disaient en arrivant « Vous nous avez mandé, ô maître, nous voici. » Maître Ramon leva la tête. « Toujours à la moisson, le grand orage. Infortunés que nous sommes tous. Si bien avisés que nous soyons, toujours au malheur il faut se heurter. Oh, dit-il, sans que je m'explique davantage, mes bons amis, je vous en supplie, que promptement chacun me dise ce qu'il sait, ce qu'il a vu. » Laurent, de Goule, s'avance alors. Il n'avait pas, depuis son enfance, manqué une seule fois, quand blondissent les blés, de se diriger avec le carquois de sa faucille vers les plaines d'Arles. Vieille roche que la mer frappe en vain de ses vagues, comme une pierre d'église, il avait le teint brûlé. Vieux capitaine de la faucille, que le soleil rôtisse ou que mugisse le mistral, toujours à l'œuvre le premier. Il avait avec lui ses sept fils, rustaux, allés comme lui robustes. Les moissonneurs, à juste titre, l'avaient d'un accord unanime élu pour chef. S'il est vrai qu'il pleut ou qu'il neige, lorsque rougeâtre le jour se lève, ce que j'ai vu, commença Laurent de Goule, à coup sûr, maître, nous présage des larmes. Dieu dissipait le tremblement de terre. C'était ce matin, l'aube même déjà vers le ponant chassait l'obscurité. Trempés d'égoual, à l'habitude, nous allions faire la trouée. « Compagnons, rappelons-nous de bien arranger le travail, leur dis-je, et de l'entrain. » Je me retrousse, à ma tâche, gaiement je me courbe. Du premier coup, maître, je me blesse. Voilà 30 ans, beau Dieu, que cela ne m'était arrivé. À ces mots, il montre ses phalanges qu'ensanglante la plaie profonde. Les parents de Mireille ont d'autant plus gémi. Et Jean Bouquet, l'un des faucheurs, prend la parole de son côté. « Tarasconnais et chevalier de la Tarasque, beau bloc de garçon, mais doux et bon ami. Ah, quand courait l'antique sorcière, la Gadigadet ou la Tarasque, quand de danse, de cris, de joie et de vacarme s'enlumine la ville morne, nul qui fit en condamine, mieux que lui ou de meilleure grâce, voltiger dans les airs la pique et le drapeau. Parmi les maîtres de la fauche, il aurait pris rang au pâturage s'il eût du travail bien tenu le sentier. Mais quand venait le temps des fêtes, adieu le martelage de la faux. Aux grandes orgies, sous la tonnelle ou dans les tavernes voûtées, aux longues farandoles et aux courses de taureaux, c'était un timon, un forcené. Maître, pendant que nous fauchions à grands coups, commença le jouvenceau, sous une touffe d'ivraie, je découvre un nid de francolins qui agitaient leurs ailerons. Et vers la fane pendante, afin d'en voir le nombre, je me penchais tout joyeux. Ô sort fatal, pauvre petite bête! D'affreuses fourmis, rouges et folles, du nid et des petits venaient de s'emparer. Trois étaient déjà morts. Le reste, infesté de cette vermine, sortait hors du nid la tête qui semblait me dire « Oh, venez me défendre !» Mais une nuée de fourmis, plus venimeuses que des orties, furieuses, acharnées, avides, les perçaient. Et moi, pensif que j'étais, contre le manche de mon fer, dans la lande j'entendis la mère qui en pleurant piaulait et les plaignait. Ce récit de malheur est de rechef un coup de lance. Du père et de la mère, il a gonflé l'amer pressentiment. Et comme, en juin, quand vers la plaine monte en silence l'orage, que coup sur coup la tramontane resplendit d'éclairs et que le temps de toutes parts se couvre, vient le marrant. Dans les bastides, son nom avait du retentissement. Et le soir, pendant que les mulets attachés tire des crèches la luzerne, souvent les vallées de la bourre, en hiver, épuisent l'huile des falots en parlant de la foi qu'il vint se louer. Il s'était loué pour les semailles. Chaque laboureur bientôt commence à tracer son sillon. Et le marrant, néanmoins, était derrière qui, de son soc, cognait gauchement les oreilles, ou le cep, ou les tyrans, comme celui qui, de sa vie, n'a touché d'outils. « Tu vas te louer pour labourer, et tu ne sais pas monter un arrière, maladroit !» lui cria le premier charretier. « Je tiens qu'un verra avec son groin, mieux que toi, goujat labour. Votre gageure, je la relève, répondit le marrant, et qui manquera le but, de moi ou de vous, perdra, chef, 3 louis d'or. Sonnez du clairon. Les 2 socs à la fois ont fendu le guéret. Les 2 laboureurs, vers l'autre rive, prennent pour jalon 2 grands peupliers. Les 2 arrères ne font pas une inflexion. Par le rayon du soleil, les arêtes sont dorées. Palme de Dieu, dirent pour l'or les serviteurs, tous en qu'ils étaient. Votre sillon, chef, est d'un homme valeureux et d'une main point maladroite. Mais, disons tout, tellement droit est celui de l'autre qu'avec une flèche, on pourrait assurément l'enfiler tout du long. Et le marrant gagna le prix. Dans le conseil qui déconcerte, le marrant lui aussi vint donc verser son mot amer. Il dit, tout blême, « Tantôt, en labourant, je sifflais. C'était tant soit peu dur. Je me proposais d'allonger un peu la séance afin d'achever. Tout à coup, je vois mes bêtes hérisser leurs vêtements poilus. Je vois le frémissement et l'effroi tout ensemble qui font arrêter là ma paire et chauvir les oreilles. Moi, je voyais double. Je voyais les herbes de la jachère se pencher vers le sol en se décolorant. Je touche mes bêtes. La baillarde, avec un air triste, me regarde, mais ne remue pas. Fallait flairer l'arête du sillon. Un coup de fouet cingle les jarrets. Ils partent effarés. L'âge, un âge d'orme, éclate. Ils emportent la flèche et le joug. Et, pâle, oppressé, à moi, il m'a pris comme une épilepsie. Une convulsion involontaire a fait grincer ma mâchoire. Un frisson me vient, et sur mes chairs consternées et sur ma tête ébouriffée comme les têtes des chardons, j'ai senti la mort passer comme un vent. « Bonne mère de Dieu, couvre de ton manteau ma belle enfant !» s'écria la pauvre mère d'un cri désolé. À genoux, elle est tombée là, et vers les nues, elle ouvre encore la bouche. Voici qu'arrive à grandes enjambées le chef Anthelme, pâtre et trayeur de lait. Qu'avait-elle donc si matinale pour hanter ainsi les taillis de cadre, dit le chef Anthelme en entrant au conseil. Nous étions, nous, enfermés dans nos clés, en train de traire nos brebis, et, au-dessus des vastes plaines caillouteuses, les étoiles de Dieu clouaient le ciel. Une âme, une ombre légère, un spectre frôle le parc. De frayeur restent muets les chiens, se pelotonne le troupeau. Si tu es bonne âme, parle-moi donc, si tu es mauvaise, retourne aux flammes, pensais-je en moi-même. À Notre-Dame, maître, je n'ai pas loisir d'entamer un ave. Avec moi, ô Sainte-Marie, nul ne veut venir d'entre les bergers? Une voix connue alors crie. Et ensuite, tout disparaît dans la lande. Le croirez-vous, ô notre maître, c'était Mireille. « Se peut-il ? » tout le monde à la fois pour l'or dit sur le champ. « Mireille, continua le pâtre, je l'ai vue à la clarté des astres, je l'ai vue, vous dis-je, et elle a filé devant moi. Je l'ai vue, non plus telle qu'elle était, mais dans sa figure triste et sauvage, on connaissait que, sur la terre, un cuisant déplaisir lui donnait l'élan. À la fatale nouvelle, dans leurs mains terreuses, les hommes en gémissant frappèrent à la fois. « Ô sainte, menez-moi vite, gars !» s'écrie la pauvre mère. « Je veux, où qu'il aille, où qu'il vole, suivre mon oisillon, mon perdreau des champs pierreux. Si les fourmis l'attaquent, jusqu'à la dernière, mes dents qui broient, mangeront, broieront fourmis et fourmilières. Si l'avare mort décharnée la voulait tordre, moi seul, j'ébrécherai sa faux usée, et pendant ce temps, tu fuiras à travers les jonchers. » Et par les champs, Jeanne-Marie, que l'appréhension égare, semait en courant ses folles invectives. « Charretier, tente la charrette, oint les cieux, mouille les cercles des moyeux, et promptement attelle la mourette, car il est tard, disait le maître, et nous avons un long trajet. » Et sur le char retentissant, Jeanne-Marie monte, et l'air s'emplissait plus que jamais de transports délirants et plaintifs. « Ma belle mignonne, Pierret, lande de crocs, vaste plage saline, à ma fille qui languit, et toi aussi, grand soleil, soyez bienveillant. » Mais l'abominable matrone qui attira dans son antre mon enfant et à coup sûr lui a versé, lui a fait avaler ses filtres et ses poisons, ta veine, que tous les démons qui épouvantèrent Saint-Antoine sur les roches des Baux aillent te traîner. Dans les chaos de la charrette se perd la voix de la malheureuse. Et les hommes du mas, en examinant si personne n'apparaissait dans la croix lointaine, lentement retournaient au travail. Heureux, entre les allées dont les arbres se joignent, les essaims de moucherons tourbillonnant au frais.